Salut tout le monde, Faberglass de MMA Talk avec mon treadmill, c'est Sacoche. Puis je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC Jacksonville 2, la troisième carte de la semaine. Là. Bref, vous le savez, là, semaine de fou, il y a plein de combos, c'est beau se pitcher. Puis là, ben, c'est la troisième carte, il y a 11 combats, analyse et prédictions complètes. Je suis supposé de faire un podcast dans genre 10 minutes avec Rudge puis Greg, là, fait que j'essaie de me claquer ça comme un malade. En plus, je vous le dis, j'ai checké aucun tape. Là. Je vous fais ça du mieux que je peux, du meilleur de ma connaissance. Vous ferez à mes pics ou pas. On s'en sac. Voici mon preview. Main event de la soirée, Alistair Overeem, Walt Harris. Écoutez, Alistair Overeem a pas mal tout ce qu'il faut pour battre Walt Harris. Meilleur debout, absolument meilleur au sol. Le Walt Harris, on l'a vu se faire take down par Overeem, se faire traiter comme un enfant, qui se passait un armbar comme si c'était comme le prof de Drew qui démontrait comment passer un armbar du dos à toute la classe, tu sais. Fait que non, meilleur debout, meilleur au sol, va être meilleur dans le clinch, a plus de cardio, a plus de stratégie, de façon de gagner un combat de 5 rounds. Ceci étant dit, il a tendance à se faire allumer, c'est un site, là, Alistair Overeem, puis écoute, j'irais jusqu'à dire que selon moi, Walt Harris a plus de cardio que Alistair Overeem. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Walt Harris a plus de power que Jairzinho Rozenstruik. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, Overeem a pensé à ça, là, d'être capable de faire ses 5 rounds avec Rozenstruik sans mourir. Malheureusement, il n'a pas été capable. Il se retrouve avec quelqu'un qui, selon moi, est peut-être juste deuxième dans la division pour le punching power après Francis Ngannou. Donc, je m'attends pas à rien de bon là, pour Alistair qui, comme je dis, sur papier, en théorie, devrait gagner ce combat-là. Je vais quand même y aller avec Walt Harris, deuxième round. Co-main event, Claudia Gadella, Angela Hill. Je voudrais bien faire une excellente analyse, mais on a vu Angela Hill battre à peu près tout le monde qui ne doit pas être dans le top 15 et perdre contre à peu près tout le monde qui est dans le top 15. Ça va déjà être son troisième combat de l'année 2020. Fait que shout out à elle qui a réussi à rester active malgré le Rona, mais je pense pas qu'elle va battre Gadella ici, même si c'est un combat qui pourrait être rendu intéressant par la pandémie, par le fait que Gadella, à base, elle gazote tout le temps. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air dans ce combat-là, où elle va peut-être avoir eu un moins bon camp. Puis on a vu les gens peut-être un peu plus prone à gazote depuis justement ces 3-4-là cette semaine, particulièrement celle de mercredi soir. Donc, peut-être une petite avenue pour Hill, là, pour que ce soit comme le résultat bizarre que t'as. Tu penses-tu qu'un jour Angela Hill allait battre Claudia Gadella? Je pense que c'est la circonstance pour que ça arrive pour Hill. Ceci étant dit, je ne mettrais pas un 2 là-dessus. Fait que j'ai Gadella par décision. Ensuite, le meilleur combat de la soirée, selon moi, c'est chez les 145 livres. Danny Gay contre Edson Barboza. Et puis, écoute, j'aime beaucoup ce que Danny Gay fait. Là. Je l'adore. Puis ça serait tellement un énorme accomplissement pour lui d'arriver là et battre Edson Barboza. Puis le fait que ça soit à 145 aussi, ça me fait me poser la question. Là. Je ne vous cacherai pas que le petit côté de moi qui se dit « Tabarnouche, tu sais, est-ce que Edson va être bon, beau à 145 dans les circonstances actuelles? » Premier combat dans une nouvelle weight class. On ne sait pas c'est quoi son training camp. On ne sait pas rien de ce qui est arrivé pour lui, qu'est-ce que ça a eu l'air. Donc, ça me fait presque envie de pencher vers Danny Gay, mais n'empêche que le pic logique ici, c'est Edson Barboza. Parce que Gay, oui, autant il a une bonne lutte, et est autant bon pour mixer ces choses, il est de mieux en mieux debout. C'est un pressure fighter. Puis la dernière fois qu'on a vu un gars foncer recklessly sur Edson Barboza sans trop avoir une réponse à son striking, mais c'est Dan Hooker. Puis pas mal tout le monde se rappelle de la rocklick qu'Hooker a mangé dans ce combat-là. Donc je vais y aller avec Edson Barboza par décision. Ensuite, Ya Boy, Eric Anders face à Christophe Jotko. Moi, j'ai un gros faible là, pour Christophe Jotko. Depuis que j'avais fait une entrevue sur mon podcast avant son combat contre Barrio, le gars a une belle philosophie de vie. Il a un pug chez eux. C'est mon boy. C'est un amoureux des chiens. C'est mon boy, Christophe Jotko. Je vais prendre pour lui. Puis on s'entend qu'il y a boy. C'est peut-être un peu de la faute à Barrio, mais il a fait de lui un peu un ennemi public là, ici en... en territoire québécois. N'empêche que, tu sais, Jotko est vraiment, vraiment meilleur. Là, on a un peu le c'est des teammates, là, d'ailleurs, Ya Boy et Walt Harris, mais on a un peu le même genre de fighter, hein. 100% athlétique, pas super technique. Ben, tu sais, gros pis puissant pis il peut faire chier du monde pis il peut passer proche de finir un bon fighter comme Elias. Ben, tu sais, j'ai un peu le combat contre Elias dans la tête ici. Pas que Jotko est autant weird, mais, tu sais, en dehors de toute la weirdness d'Elias, c'est un bon combattant complet qui est capable de faire plein de choses. Jotko aussi. Puis on a vu Yaboy avoir ses moments à passer tout près de réussir à gagner ce combat-là. Mais c'est l'aspect combattant complet d'Elias qui a eu le dessus. Puis Jotko aime ça rester à distance avec son jab. Est capable de se battre dans le clinch. On l'a vu, là, quand il a eu du bon succès contre Barrio dans le clinch. Où Barrio a l'habitude d'être très bon. Capable d'aller chercher des takedowns de plus en plus. Puis de dominer au sol. Belle brown belt. Quand même bon niveau s'entraîner au ATT. Donc risque d'avoir eu un camp qui a de l'allure, lui, vu qu'il est en Floride. Puis c'est un essential business là-bas. Donc, on va y aller avec Christophe Jotko ici, par décision. Ensuite, Song Yadong affronte Marlon Chito Vera. Et puis ça, ça va être un excellent combat. Peut-être mon deuxième préféré là, sur la carte après les chums Danny Gay et Barboza. Ceci étant dit, écoute, Chito Vera, toute sa gimmick, c'est de pas gagner jusqu'au moment où il fait un comeback puis il gagne. Puis il y a certains combats que il ne gagnera pas, là, qu'il ne comebackera pas contre son adversaire. Puis j'ai comme l'impression un peu que Song Yadong est ce combat-là. Dans le sens que, tu sais, moi, selon moi, il a absolument perdu contre Cody Stamann. Il méritait la défaite, mais ça, mort, il a réussi à s'en tirer que nul. C'est quelqu'un qui, même dans de mauvaises performances, on disait non, il n'a pas look good dans ce combat-là, réussit à se battre contre Cody Stamann, qui est absolument un combattant top 15 établi à 135, et ne même pas perdre, d'aller chercher un draw. Donc j'ai l'impression que ça va être très dur là, pour Marlon Vera de sortir un finish de nulle part comme il fait si bien habituellement, puis battre Song Yadong. Donc j'ai Yadong par décision ici pour cette raison-là. Ensuite, Miguel Baeza contre Matt Brown. Puis c'est le combat qui me tente un peu de dire ah, j'y vais pour le prospect. Là. Tu sais, tantôt, je suis pas allé pour le prospect dans le cas de Ige contre Barboza. Je dis, ah, il est peut-être pas rendu là. Le fuck it, cette fois-là, j'y vais pour le prospect. Mais c'est parce que Miguel Baeza va tellement amener une game que Matt Brown aime jouer, que oui, il pourrait battre Matt Brown par décision, mais ça va être quand même assez dur de rester là, puis trader avec Matt Brown, puis d'essayer de rentrer dans le clinch, puis de faire des choses comme ça avec Matt Brown, je tiens à le préciser. Donc non, je pense que peut-être Baeza va avoir les devants dans ce combat-là, peut-être va avoir des bons moments, mais un moment donné, il va se faire cut dans quelque chose, puis j'ai Matt Brown par TKO au troisième. Ensuite, Anthony Hernandez contre Kevin Holland, ça va être très très drôle. La manière que je vois ça un peu, c'est Hernandez, c'est souvent le gars qui va mettre la pression, le plus le pressure fighter. Kevin Holland, c'est le no-style fighter. Là. C'est le gars qui game de faire absolument n'importe quoi à tout moment, sans trop se poser de questions de est-ce que je suis en train de gagner, est-ce que c'est bon pour moi de faire ça, est-ce que je devrais être en train de faire ça. Pose pas ces questions-là, le chum Kevin, lui, fait juste continuer comme ça, puis il prend ça comme ça vient. Puis ça va être écœurant, pas de public, parce que c'est un méga trash talker. Et puis, j'ai comme l'impression que son reach va avoir un bel effet dans ce combat-là. Il est bon pour se battre de leur culon. Hernandez ne sait que venir de l'avant, puis essayer de mettre de la pression. Je le vois rentrer face première dans beaucoup de jabs, avoir un peu de difficulté avec la distance de Kevin Holland. Et puis s'il réussit à closer à distance, Kevin Holland, c'est carrément le gars qui, s'il n'est pas content, va pull guard puis travailler dans le dessous. Puis il est tricky au sol, là, on le va avoir de très bons échanges avec Marreta et Thiago Santos notamment. Donc j'ai Kevin Holland dans ce combat-là par décision. Ensuite, sleeper fight sur la carte absolument, 145 livres, Mike Davis affronte Giga Chikadze. Chikadze qu'on a vu là à quelques reprises avoir du succès, gagner ses combats, mais vraiment un pur kickboxer que si tu le laisses se battre debout, va être absolument écœurant, mais il va peut-être avoir un peu plus de difficultés quand ça va au sol. Puis il a réussi à se relever du combat au sol assez pour gagner ses combats, mais il affronte pas Brandon Davis, là. Il affronte Mike Davis qui descend 155 livres, qui est un complet malade. Et puis, oh, les boys sont prêts. 5 minutes, les boys. Et puis, non, j'ai juste... Je pense que ça va être un combat serré, debout, peut-être un petit peu à l'avantage de Giga Chikadze, mais je suis convaincu que Mike Davis va être le gars le plus willing d'essayer de grapple dans ce combat-là. Puis c'est absolument le grappling qui va causer la première défaite de Giga Chikadze dans l'UFC. Donc, je pense que ça va se passer samedi. Et je pense que c'est ça qui va arriver. Ensuite, on y va rapidement parce que les gars sont prêts pour le podcast. Darren Elkins, Nate Landwehr. Tabarnouche, Nate Landwehr. Je comprends, vous avez comme vous pensez que c'est un bon prospect qui est prometteur, mais le boys... Fuck man, ça se peut qu'il gagne en plus ce combat-là là, contre Darren Elkins, mais vous ne mettez pas la tâche la plus facile. Là. En temps de pandémie où, comme j'ai dit une couple de fois, on ne sait pas trop comment personne s'est entraîné. Mais tu veux pas avoir de damage là, devant toi qui va être fendu de partout, mais qui va quand même te courir après comme un zombie pour essayer de te lutter. Fait qu'écoute, je pense que j'ai J'ai Darren Elkins par décision. Ensuite, 125 livres, Courtney Casey contre Mara Romero Borella. Je ne sais pas si Casey devient officiellement de 125 livres là, avec ce combat-là ou si c'est à cause de la pandémie. Il faudrait que je check là-dessus. Je pense pas qu'elle a un mauvais frame là, pour 125 livres. J'ai jamais compris comment elle a fait 115 livres auparavant. N'empêche que... J'ai comme l'impression que Courtney Casey... Elle fonce, elle va de l'avant, elle essaie de lander des mains, mais elle n'est pas défensive en retour. Puis elle a besoin de pouvoir contrôler le grappling, je pense, pour gagner ses combats. Et puis, ben, je sais pas si elle va faire ça contre Borella, mais je note pick Borella là, direct là avant. Puis je pense que je vais pick Courtney Casey finalement. Parce que Borella est underwhelming, fait des combats quand même boring. Elle est capable de pogner une bonne position au sol puis la garder, mais j'ai comme l'impression que le wild factor de Courtney Casey, puis le fait qu'il arrive un peu n'importe quoi, c'est un site, va donner la victoire à Courtney Casey. Et finalement. On a Rodrigo Nascimento qui affronte Dontell Mace chez les poids lourds. Puis j'ai même pas checké de tape sur Rodrigo Nascimento, pour être honnête avec vous, parce qu'il va se faire péter à gueule par Dontell Mace. Dontell Mace a l'air d'un clown contre Cyril Gane, mais il est grand. Il a un très bon reach management. Il travaille bien dans le clinch. C'est un bon heavyweight prospect que j'ai hâte de voir se développer puis de grandir de ce combat-là contre Cyril Gane où il n'allait jamais avoir aucune petite chance anyway. Donc c'est ça, c'est mes analyses et positions. Voir que j'ai fait ça en genre 10 minutes, 12 minutes. Je suis bien content, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez écouter. Ça c'est un bon Fight Night, là, pour vrai. Pour les autres Fight Night que je chiolais pas, que je chiolais, ça en termes de Fight Night, là, c'est un bon Fight Night. Ça a l'air que l'UFC a recommencé. On va checker comment ça va samedi soir. Sûrement faire un live après. Merci les petits boys. Puis stay tuned parce que là je m'en vais enregistrer un podcast avec Rudge puis Greg, puis ça va être plus tard dans la journée que je vais poster ça. Donc stay tuned for that. Salut, à l'approche.